RFI, grand reportage.
Sébastien Duhamel.
En Europe, chaque année, des centaines de milliers de jeunes se retrouvent sous l'uniforme, appelés à défendre leur pays. Certains voient ce passage sous les drapeaux comme une contrainte, d'autres comme une opportunité. D'autres, enfin, sont décidés à donner quelques heures de leur temps libre en s'engageant dans la réserve. Sur le continent européen, plus d'une dizaine de pays ont conservé le système de conscription après la fin de la guerre froide. En France, le président Emmanuel Macron souhaite la mise en place d'un service national universel. Alors, qu'est-ce qui pousse les jeunes à rejoindre finalement les rangs de l'armée ? Leur action est-elle réellement utile à la défense de leur pays? Olivier Four a mené l'enquête en Suisse, en France et en Norvège. Aux armées citoyens, c'est le grand reportage de RFI.
L'hiver a été rude en Norvège. En ce début de printemps, le soleil est revenu, mais la neige n'a pas encore fondu. Sur le champ de manœuvre de Rena, à une centaine de kilomètres au nord d'Oslo, les blindés de l'armée norvégienne semblent surfer sur l'épais manteau blanc. Le peloton de quatre véhicules chenillés est constitué d'appelés qui effectuent leur service à l'académie militaire. Parmi eux, une jeune femme de 21 ans, installée aux commandes d'un engin de 25 tonnes.
Je m'appelle Margaret et je suis conductrice du blindé CV-90. Il y a 2 ans, j'ai arrêté l'école et je ne voulais pas aller à l'armée. Alors j'ai choisi d'attendre un peu. Et puis je me suis dit que je devrais y aller, parce que les gens qui ont fait l'armée vous disent tous que c'est la meilleure année de leur vie. Et maintenant, je comprends pourquoi. Parce qu'on fait des trucs bizarres et parfois très durs, mais où est-ce qu'on pourrait faire des trucs pareils? Je pense que c'est juste trop cool.
C'est une grosse machine de guerre.
Oui, c'est vrai. Mais c'est sympa à conduire. C'est très drôle, vraiment.
Est-ce que vous êtes prête à faire la guerre?
Je ne sais pas. Je pense qu'on ne peut pas vraiment être prêt à 100%. Parce qu'on ne sait pas où ça peut arriver, ni quand, ni comment. Mais je me sens très en sécurité en Norvège. Et j'aime vivre dans ce pays.
Ce jour-là, aucun obus ne sera tiré. Leur unité utilise des lasers pour simuler les tirs et les tactiques de l'adversaire. Dans l'équipage, Oyun s'occupe du canon, c'est le gunner. Cela fait 10 mois maintenant qu'il fait son service militaire.
Je pense que c'est le premier mois qui est le plus dur. C'est là qu'ils nous apprennent à être un groupe et à ne pas abandonner quand ça devient dur. Donc physiquement, c'est difficile. Avant ça, je venais du lycée. Je n'avais connu que l'école. Mais je n'ai pas postulé pour devenir militaire professionnel. C'est pas un métier pour moi. Moi, je voudrais faire une école d'infirmier, ce qui d'ailleurs est une fonction importante ici dans l'armée. Cette année de service, c'est aussi une bonne occasion de réfléchir à ce que je voulais faire dans la vie. Et c'est pas une mauvaise chose d'avoir ça sur son CV ici en Norvège.
En Norvège, la conscription remonte à 1799. Le système a perduré, mais a été modernisé. Le général Jan Erik Thoresen est en charge des ressources humaines de l'armée norvégienne.
Chaque année en Norvège, on a environ 63 000 jeunes qui atteignent l'âge de 17 ans, aussi bien des garçons que des filles. Et sur ces 63 000, nous en sélectionnons environ 8 000 pour qu'ils fassent leur service. C'est l'entraînement de base du soldat, qui dure environ 12 mois. Donc on utilise 15% des jeunes chaque année. On essaye de sélectionner les gens selon nos besoins, mais en accord avec leur projet de vie. Donc si quelqu'un nous dit durant les tests « je suis motivé, je veux bien venir, mais je ne peux pas le faire maintenant », on pourra attendre 3 ans avant qu'il soit appelé. La Norvège est un pays très égalitaire, particulièrement vis-à-vis de l'égalité homme-femme. Donc nous pensons que le devoir de servir doit s'appliquer aussi bien pour les garçons que pour les filles.
Avant la réforme de 2015 sur l'égalité entre les sexes dans la conscription, il y avait déjà des jeunes femmes dans l'armée norvégienne, mais elles étaient toutes volontaires et non pas sélectionnées. Aujourd'hui, près du quart des appelés sont des filles, comme Maria, 19 ans, tout juste sortie du lycée.
We're mixed. All mixed.
On est tous mélangés. Je vis dans une chambre avec trois autres gars. Et vous apprenez beaucoup quand vous vivez avec quelqu'un de l'autre sexe. Parce qu'on est différents, à bien des égards, mais bon, on est cinq filles dans l'unité, donc on a quand même des copines à qui parler. L'amitié est très importante dans l'armée et nous sommes tous très proches.
Cette mixité ne semble pas poser de problème. Le lieutenant Daline, militaire de carrière, n'a que 25 ans, guère plus âgé que les appelés qu'il est chargé d'encadrer.
La clé, c'est de faire confiance à tout le monde. Et je ne crois pas que le nombre de filles dans l'armée ait tant augmenté que ça. Mais que voulez-vous ? Les hommes et les femmes sont complémentaires. Et c'est pas si dur à gérer, peut-être lors des passages aux toilettes ou des trucs comme ça. Mais c'est pas un problème.
Il n'y a pas de sexisme ?
Non, vraiment, j'ai jamais été confronté à des choses comme ça. Vous savez, c'est un objectif pour l'armée d'augmenter le taux de féminisation, donc.
Est-ce que vous poussez tous ces jeunes à rejoindre l'armée de métier, après leur service ou même la garde nationale ?
Non, je les force pas, mais quand vous leur montrez qu'on s'éclate bien dans l'armée, ils voudront sûrement revenir et faire la même chose.
Après 12 mois de service, les jeunes Norvégiens ont le choix. Ils peuvent quitter l'armée, devenir militaires professionnels ou rejoindre la garde nationale. Dans ce cas, ils devront se rendre disponibles 7 mois de plus, à raison d'une semaine par an. La garde nationale norvégienne permet de renforcer le maillage du territoire et contribue à la protection de 4 sites stratégiques autour d'Oslo, la capitale, la zone pétrolière de Stavanger, Trondheim et Narvik, les portes d'entrée de l'OTAN. La garde a été confiée au plus jeune général de l'armée norvégienne, Erik Kristoffersen, issu des forces spéciales.
Je pense profondément que nous avons toujours besoin d'effectifs sur le terrain, y compris chez nous en Norvège. Défendre la Norvège n'est pas uniquement le travail des forces armées, c'est le travail de l'ensemble de la société. Donc pour la garde nationale, c'est important de travailler avec toutes les agences de l'État pour être sûr que la réponse sur le terrain soit efficace. Par exemple, avec les compagnies en charge des chemins de fer, des autoroutes, des aéroports ou des ports, bref, tout ce dont on pourrait avoir besoin pour accueillir les alliés en cas de conflit. Bien sûr que les alliés viendront si on en a besoin, mais chaque nation doit pouvoir aussi faire preuve de résilience pour protéger son propre territoire. Donc même si l'OTAN débarque en Norvège, la garde nationale restera sous commandement national. Son rôle est de protéger les infrastructures vitales du pays. Le nord est bien sûr important, car c'est là où se trouve la frontière avec la Russie. Et donc potentiellement, c'est là où pourrait éclater un conflit bilatéral. Et il y a de plus en plus d'intérêt autour du système de défense totale de la Norvège, surtout après ce qui s'est passé en Crimée et en Ukraine. Et donc, je m'emploie à réduire autant que possible le temps de réaction de mes troupes.
My main priority is to make the readiness short as possible.
Officiellement, l'architecture de défense en Norvège, armée de métier et conscrit, permet d'aligner 26 000 hommes en temps de paix et de monter à 70 000 hommes environ avec les réserves en cas de conflit. En France, la garde nationale, créée en juillet 2016, n'a pas de mission indépendante ou de moyens militaires spécifiques. La conscription, elle, a disparu en 1999 et c'est le terrorisme et non pas la Russie qui constitue la menace immédiate.
Bonjour à tous.
Fort de Vincennes, dans l'est de Paris.
Donc aujourd'hui, grosse activité administrative pour les cadres sur la fidélisation, par les notations.
Samedi matin, 7h30, le capitaine Vincent du 24e régiment d'infanterie a réuni les hommes et les femmes de la première compagnie pour un week-end d'instruction, tous sont réservistes.
Deuxième partie de l'activité, c'est l'opérationnel, en vue d'être engagé. Des questions ? C'est clair pour tous ? Ensemble. Vaou ! Rompez les rangs !
Semper !
Semper Primus, toujours premier, la devise de la compagnie. Le général de brigade Yann Poinsignon, délégué aux réserves de l'armée de terre.
Alors, l'engagement dans la réserve, c'est un engagement volontaire. Donc le réserviste qui s'engage à participer aux activités de son unité sur une base moyenne d'une quarantaine de jours par an, entre 37 et 40 jours par an. Les réserves de l'armée de terre sont une partie intégrante de l'armée de terre. Réserve intégrée à l'armée de terre. Aujourd'hui, l'armée de terre, c'est une force opérationnelle terrestre de 77 000 hommes. La cible réserve que nous atteindrons à la fin de l'année 2018 est de 24 000 réservistes. L'armée de terre, c'est aujourd'hui 2 000 réservistes convoqués par leur régiment ou leur état-major d'appartenance, dont aujourd'hui un peu plus de 600 employés en opération, par exemple des missions de patrouille, des missions de surveillance sur le territoire, sur les zones d'engagement de sentinelles. C'est une participation de la réserve et des armées à la sécurité du territoire national et des Français.
Patrouille !
Au programme cet après-midi, dans les anciennes douves du fort de Vincennes, une préparation à la mission Sentinelle Vigipirate.
Donc là, vous allez arriver devant une école, d'accord, ou un site sensible, et vous devez donc traverser cette rue. Évidemment, il va se passer une situation que vous devrez savoir gérer. Ok ?
Attention maintenant.
Reculez. N75, j'ai été agressé. Je suis rue Saint-Germain. Et j'ai un personnel qui est blessé, je demande les SP. Il s'est fait attaquer au couteau, il a une blessure.
Let's go, on se remet en place les gars. Allez, Finex. Allez, dépêchez-vous les gars. Allez, j'écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Votre ressenti sur ça? Est-ce que c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui s'approche aussi vite de vous? Pas normal les gars, pas normal. D'accord? Pensez-y, vous avez votre propre bulle de sécurité. C'est pas normal qu'il y ait des individus qui viennent à votre contact directement. Mais vous étiez tétanisé, non. En tout cas, vous avez... vous savez pas quoi faire. D'accord? Donc il faut réagir à ça. Ok? Pensez-y. Vous êtes d'accord les autres?
Oui, bon, lieutenant.
Ça marche.
L'instructeur, le lieutenant Paul, est lui aussi réserviste, mais lui vient du ministère de l'Intérieur.
C'est toujours fait avec... avec le souhait de leur apporter une expérience concrète. Ça permet d'avoir à la fois ce coup d'œil du policier au quotidien et en même temps d'avoir le point de vue opérationnel du militaire. Et je pense que c'est la mixité parfaite pour des personnels qui sont employés sur Sentinelle, bien sûr.
Dans le civil, le première classe Thibault est ingénieur. Cet après-midi, il porte un treillis et un fusil FAMAS.
C'est de l'entraînement vraiment à la mission sur laquelle on est amené à intervenir. Nous, la première mission, c'est de rassurer, protéger la population et également se protéger. Par le fait qu'on porte le treillis, on est facilement identifiable. Donc, bien sûr qu'on a peur. Enfin, je veux dire, on a une tuerie de masse il y a 2 ans. On a régulièrement des épisodes dramatiques. Donc, évidemment qu'on a peur. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'en protéger? Comment est-ce qu'on fait pour garder notre calme? Et clairement, les formations dispensées au sein de la réserve de l'armée française sont complètement adaptées pour répondre à ce genre de menaces.
Quand est-ce que vous avez rejoint la réserve?
Il y a 2 ans et demi, juste après les premiers attentats de Charlie Hebdo. Mais après, je suis pas venu là avec un esprit revanchard. C'est vrai qu'à la réserve, j'ai rencontré des gens que j'aurais sans doute jamais rencontrés en d'autres circonstances. Il y a vraiment des gens de tous bords, de tous horizons, de toute classe sociale. Mais après, on n'a rien non plus d'exceptionnel. On est des concitoyens engagés dans les forces de défense, au même titre que certains sont engagés à faire de la déradicalisation, etc. etc. C'est une forme de défense.
Le 24e RI, un régiment unique dans l'armée française, surnommé le Régiment de Paris, il est constitué à 99% de réservistes. Un régiment dissous à la fin de la guerre froide et ressuscité il y a 5 ans. Le lieutenant-colonel Claude Nicpont, le seul chef de corps de réserve de l'armée française.
Le régiment, quand il a été dissous à l'époque, c'était un régiment avec des appelés qui venaient de commencer sa professionnalisation. Quand on l'a recréé en 2013, on a recréé finalement le même régiment, mais avec un concept nouveau, puisque c'était la première fois depuis la Première Guerre mondiale qu'on recréait un régiment uniquement fait de réservistes. C'est ça sa particularité. Donc c'est vraiment un concept très particulier qui est encore aujourd'hui en cours d'expérimentation. Si le dispositif Sentinelle s'allège, eh bien ça nécessite que les réservistes prennent une place encore plus grande pour permettre à l'armée d'active finalement d'aller sur les autres missions qui sont importantes aussi aujourd'hui. Ça n'a pas été dur de recruter du réserviste après les attentats. Le SNU, son objectif, c'est de toucher beaucoup plus de jeunes Français pour leur parler de la défense. Demain, le service national universel, c'est une chance d'en reparler. Et à mon avis, on recrutera beaucoup plus qu'aujourd'hui, où effectivement, c'est un peu compliqué.
Le régiment doit trouver 200 réservistes supplémentaires d'ici l'été. Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, en charge notamment du projet de service national universel.
D'abord, il faut mettre en perspective que les réserves sont indispensables au fonctionnement de notre système de sécurité du pays. L'articulation avec le service national, bon, moi j'y vois la possibilité de prolonger un engagement. Moi je crois que les militaires ne peuvent pas encadrer 800 000 jeunes, c'est bien sûr impossible, c'est hors de portée, et d'ailleurs est-ce souhaitable. Mais par contre, les militaires participeront à ce service national parce que qu'il y a déjà la culture de la défense. Il faut faire connaître ce qu'est la défense pour la sécurité de notre pays. Et je crois que à l'heure actuelle, c'est quelque chose de très important. Et puis, les militaires ont aussi des capacités à pouvoir former des encadrants. L'ambition que l'on devra avoir, c'est de faire en sorte que les jeunes aient envie de faire ce service national et qu'ils ne vivent pas ça comme une contrainte. Néanmoins, ce service national aura un caractère obligatoire. Les armées seront présentes, bien sûr, au niveau où elles pourront être présentes et au niveau où elles seront le plus utiles.
Mesdames, messieurs, bienvenue ici à Thun, sur place d'armes de Thun.
Direction la Suisse pour terminer. Un pays de 8 millions d'habitants, une armée d'environ 140 000 hommes, dont seulement 4 000 militaires professionnels. Un pays neutre, sans ennemis connus.
Et je vous propose de commencer avec une petite pause de café. Et pour ça, je vous prie de me suivre. Merci bien.
Sur un champ de tir grand comme trois terrains de football, à Thun, dans la région du canton de Berne, les futurs officiers de l'école de chars s'entraînent à contrer une hypothétique attaque.
Nous avons un ennemi qui pousse depuis le Stockenthal en direction de Thun. Il s'apprête à passer par le Tilang, c'est là où vous voyez les cibles qui vont monter et descendre. Notre mission à nous est de combattre l'adversaire lors de son passage au Tilang.
Le sergent Fabien, élève officier.
Actuellement, la menace se base surtout sur tout ce qui est Internet, des attaques, des cyberattaques. Bien sûr, avec un char, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Mais un char, il est toujours là pour aussi protéger les frontières. Il faut quand même avoir une assurance. Et la Suisse, c'est un pays neutre, donc à la base, il n'y a pas vraiment un adversaire précis qu'on peut définir maintenant. C'est juste au cas où, il faudra pouvoir agir en conséquence.
En Suisse, la conscription est inscrite dans la Constitution fédérale. Sans elle, il n'y aurait pas d'armée suisse. Le général Dominique André, conseiller militaire du ministre suisse de la Défense.
Alors la convocation se fait à partir de l'âge de 19 ans. Alors il peut anticiper l'appel, mais à 19 ans, il est recruté. Sur la base des tests d'aptitude, des tests physiques, on lui attribue une fonction. Et puis après, en accord avec l'armée, il fixe le moment à laquelle il fait sa première période de formation, ce qu'on appelle l'école de recrue de 18 semaines. Il est formé comme soldat dans une fonction spécialisée. Et puis après, il est affecté à une compagnie de milice, laquelle est mobilisée chaque année pour une période d'instruction de 3 semaines. Et il doit faire 6 cours de répétition, qu'on appelle des cours de répétition, 6 fois 3 semaines en l'espace de 9 ans.
Le soldat en service reçoit 80% de son salaire et le reste est généralement versé par son employeur. Le soldat Bastien travaillait déjà dans l'hôtellerie avant de passer en cuisine au mess des officiers de l'école de Thun.
Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du service à table pour les hauts gradés ou pour autres événements. On arrive le premier jour en civil et après, du jour au lendemain, on passe aux habits militaires, aux ordres militaires. C'est un peu strict au début, mais on s'y fait vite. Au début, je trouve que c'est un peu... pour moi, je trouvais que vu que l'armée suisse, elle est neutre, je trouvais ça un peu idiot de faire obligatoire. Mais maintenant, je remarque qu'en fait, c'est pas idiot parce que ça nous apprend à grandir et que c'est même cool parce que ça nous aide à nous faire de nouveaux camarades et tout ça, à faire des découvertes aussi et apprendre de nouvelles choses. Comment faire un lit carré et puis après aussi, il y a l'entraide entre nous. Ça, je trouve que c'est cool, ça nous apprend beaucoup.
Pourtant, l'utilité du service militaire en 2018 en Suisse est régulièrement contestée. Les Verts et le groupe pour une Suisse sans armée mènent la fronde. Liza Madzon, vice-présidente du Parti écologiste, est membre de la commission de la politique de sécurité en Suisse.
Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut avoir des doutes. Le premier, c'est est-ce que la conscription obligatoire, donc le service militaire obligatoire, répond bien aux besoins en termes de défense et aux menaces actuelles. Et le second, c'est est-ce qu'on peut toujours parler d'une conscription obligatoire quand on a énormément de gens qui en fait sont déclarés soit inaptes, soit partiellement inaptes, et donc qui n'effectuent pas le service, mais qui effectuent soit un service dans la protection civile, soit payent une taxe d'exemption. Moi, j'entends beaucoup, je suis une jeune femme, j'ai aussi beaucoup de jeunes amis qui ont eu à faire l'armée, qui doivent encore faire des cours de répétition, qui ne voient plus l'utilité, qui s'ennuient pendant les cours de répétition, qu'on ne leur donne pas de tâches, qu'ils ont l'impression de devoir tuer le temps. Et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, l'obligation de service fasse encore l'unanimité.
Consultés par trois fois depuis la fin de la guerre froide, les citoyens suisses ont toutefois confirmé à chaque fois leur attachement au service militaire. Aux armées, citoyens, comment les jeunes Européens s'engagent pour la défense de leur pays? Un grand reportage d'Olivier Four, réalisation Pierre Chaffangeon.